Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça fait plaisir de revenir dans la belle ville de Lyon un petit peu. Ça faisait plusieurs mois, je crois, que je n'étais pas venu. Donc merci de m'inviter, de m'accueillir. Donc pour commencer, cette semaine, dans l'actualité, on a parlé de pas mal de choses. Il y a une chose dont je vais vous parler ce matin. C'est pas les élections. C'est pas ce qui a suivi, je vous rassure. C'est un procès particulier. Un procès qui a eu et re-eu encore des rebondissements. Il y a, je crois, bientôt 30 ans, il y a eu un double meurtre en région parisienne. Ils avaient quelqu'un qu'ils avaient accusé tout de suite, qui était le coupable, entre guillemets, idéal. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y en avait un autre qui était encore plus coupable. Et c'est ce monsieur qui a fait 15 ans de prison pour ce double meurtre. Et après 15 ans, on s'est dit, ah mince, apparemment il est innocent. Donc on a reconvoqué le premier, il est encore en procès, et là, cette semaine, il y a eu encore un nouveau rebondissement, il y a des gens qui sont venus, après presque 30 ans de silence, pour dire, au fait, on ne pense pas que c'est lui, nous on a vu quelqu'un d'autre. Donc, imaginez les avocats, imaginez les juges, c'est un petit peu le bazar. Où est la vérité, et quand est-ce que ça va se terminer? Ce matin, je vous propose de suivre un procès un petit peu particulier. Tellement particulier que je vais poser une question. Est-ce que l'audience est levée? Alors, quelques éléments pour l'intro. Un peu de géographie. Ce procès, il n'a pas lieu en France. Il a lieu dans la ville de Colosse. Donc, je ne sais pas si vous voyez à peu près Colosse, à ce niveau-là. C'est une ville qui était une ville carrefour avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, avec pas mal de développement. D'un point de vue économique et culturel, c'était une ville qui était très réputée pour sa laine. Donc tous les grands empires, Perses, Mèdes, etc., ils s'intéressent à cette ville pour le commerce de la laine. Et par rapport à ça, un élément important, à l'époque de Paul, donc au 1er siècle de notre ère, cette ville elle est complètement en déclin, et la preuve, lors du troisième voyage de Paul, donc vous voyez, il est parti donc de Antioche et il allait à Éphèse sans passer par Colosse. Donc c'était une ville qui était vraiment en déclin et ça c'est important pour la suite. Aspect démographique, très peu de juifs, donc considérés comme une ville païenne, mais il y avait quand même une ou deux colonies de juifs et ces éléments se retrouvaient dans l'église. Donc c'est très important pour la suite, on verra pourquoi. Un aspect historique. Donc l'église de Colosse est née du ministère de Paul, mais Paul n'est jamais allé à Colosse. C'est un monsieur qui s'appelait Epaphras, qui s'est converti à Éphèse, qui est retourné à Colosse, donc sa ville, et qui a lancé une église. Cette église, elle était particulière. Elle avait une hérésie qui commençait à naître. Alors une hérésie, c'est une position doctrinale qui va à l'encontre d'une autre position. Et par rapport à ça, cette hérésie, elle est à l'encontre de la personne de Christ. Et c'est aussi une lettre ou une épître particulière, puisque cette hérésie était tellement importante, Epaphras, qui était à Colosse, qui était débordé, dépassé par les éléments, il est parti à Rome voir Paul en prison pour lui dire « il faut t'écrire quelque chose, parce que là je ne gère plus rien ». Donc, on appelle ça aussi une lettre de la captivité, puisque Paul était en prison. Donc, bienvenue à un procès inédit et crucial. Qui est Jésus-Christ? Cette question, c'est la première fois que vous la posez, c'est peut-être la 300 000e fois que vous la posez. Peu importe, c'est une question qui est encore d'actualité dans nos vies de tous les jours. Comme pour chaque procès, plusieurs acteurs. Donc je voulais présenter rapidement un public et un journaliste. Donc vous êtes le public, moi je suis un piètre journaliste, mais je vais essayer de rapporter un peu ce qui se passe à ce procès. Un juge, je vous rassure, le juge, c'est Dieu. Donc trois versets par rapport à ça, pour vous assurer que c'est un juge qui tient la route et qui est fidèle. La justice et l'équité sont la base de ton trône, car le jugement sera conforme à la justice. Et l'Éternel des armées est un juste juge. Comme tout procès, il y a un élément important, c'est quelle est la question de droit, quel est l'élément qui pose problème. La question, c'est qui est réellement, véritablement Jésus-Christ. La divinité de Christ est remise en question. Donc l'accusé à ce procès, c'est Jésus. Et si on remet la divinité de Christ en question, eh bien on remet toute la Bible en question. La peine encourue. Vous avez deux types de personnes, les personnes qui suivent Christ et les personnes qui suivent cette hérésie. La peine encourue, c'est facile, c'est la vie ou la mort éternelle. Donc, c'est une question très importante. Et enfin, les parties en présence, donc première partie, c'est-à-dire premier élément, certains membres de l'église de Colosse qui ont une théologie un petit peu particulière. Et je vais vous donner 5 points. Dieu est bon, mais la matière serait mauvaise. Jésus-Christ serait un simple élément descendant de Dieu. Il n'a donc aucun caractère divin. Il faudrait connaître un secret, avoir une illumination pour acquérir le salut. Donc il y a un aspect mystique. Quatrième élément, on peut rendre un culte aux anges. Idolâtrie. Nécessité de la circoncision, donc légalisme juridique. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a très peu de juifs, mais il y en a quand même. Et il y avait un combat par rapport, il faut se faire circoncire, sinon on ne peut pas être considéré comme né de nouveau. Vous voyez un petit peu cette position doctrinale par rapport à ces personnes. On pourrait se dire, ok, ils ont faux, complètement faux, bibliquement parlant, j'espère que vous êtes d'accord. Il y a des dizaines de versets qui le prouvent. Mais malheureusement, là où ils arrivent à convaincre des gens, c'est que leur avocat, c'est pas n'importe qui. Leur avocat, c'est le diable. Et je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vis ou qu'on vit quelque chose de fort avec Dieu, dans les semaines, les mois à venir, il y a une petite voix qui vient vous dire « Mais t'es sûr que c'est Dieu qui a permis ça ? T'es sûr que t'étais pas en train de penser à autre chose ou rêver ? Tu penses pas que c'est toi plutôt qui as réussi à faire ça ?» Combien de fois, avant des examens, je priais « Seigneur, aide-moi, sinon je vais pas y arriver. » Les examens se passaient, ça se passait bien, et je disais « Qu'est-ce que je suis fort, quoi ?» Non, j'ai rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Les principaux objectifs du diable, depuis la nuit des temps, c'est bien sûr faire obstacle à la diffusion de l'évangile. Il suffit de lire la parabole du semeur pour voir tous les éléments qui sont mis en place pour nous empêcher que la parole prenne racine, s'enracine et produise du fruit. 2 Corinthiens 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que ça vous arrive de prier pour que Dieu enlève toutes les choses aveuglantes que le diable nous met devant les yeux jour après jour? Ça peut être des images, ça peut être des pensées, ça peut être de la publicité, ça peut être n'importe quoi, mais tous ces éléments, tout doucement mais sûrement, qui nous rongent et qui nous mangent. Donc parabole du semeur, déformer les écritures, les soucis du siècle, la persécution, la tribulation. Lorsque Ève a été tentée par le serpent, c'est impressionnant comment Ève, assez vite, elle dit « Ah non, mais on peut pas. » Mais vous êtes vraiment sûr? Vous êtes sûr de ça? Une des plus grandes forces du diable, c'est de nous mettre le doute. Et le doute, un des moyens de résister, c'est surtout pas de dire « je suis assez fort pour résister ». Je vous rappelle que la personne qui connaît mieux la Bible en dehors du Christ, je pense que c'est le diable. Il sait exactement ce qu'il faut dire, quand il faut dire, et surtout comment le déformer. Et quand on voit l'exemple, le seul qui a tenu bon, pourtant, nous des fois on se plaint parce qu'on est tenté, mais lui il a été tenté, puissance 10, puissance, on ne peut pas mettre de nom, Jésus bien sûr, son réflexe était quoi? Des versets bibliques. Et le diable a joué avec ça. Il a déformé une partie d'un psaume pour dire mais... Et je vous ai dit, non, c'est comme ça, point. Il est malin, il est subtil, il est trompeur, et c'est le père du mensonge. Donc voilà la première partie au procès. Avant de présenter la deuxième partie, je vous propose de lire ce texte, donc dans Colossiens. Colossiens 1, versets 15 à 20. Et pendant que vous prenez ce texte, quelques éléments. En fait, on va essayer de vivre en direct live le procès. Je vais vous donner des arguments au fur et à mesure des hérétiques, ce qu'ils pensent, et les réflexes de Paul en disant « Objection, monsieur le juge », et il va donner des idées, des éléments, et notamment pas mal de versets. Donc, je vous invite à prendre ce texte, Colossiens 1, versets 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Deuxième partie, les disciples de Christ. Donc imaginez la salle coupée en deux, vous avez l'accusé, et derrière lui, ses disciples. Et à côté de lui, vous avez un avocat un peu particulier, Paul. Ce passage, ces cinq versets, on pourrait les considérer un petit peu comme une plaidoirie d'un avocat. Et une plaidoirie nette, claire, profonde, avec des mots-clés. Et la force d'un avocat aujourd'hui, c'est de défendre son client de manière intelligente, en parlant quand il faut, et surtout, comment il faut. Donc on va voir cette plaidoirie en deux temps. Tout d'abord, versets 15 à 18, j'ai appelé ça christocentriquement christocentrique. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, le Fils par la volonté du Père. Donc premier élément, versets 15 à 18, christocentriquement christocentrique. Le parti des hérétiques, il va dire, Jésus n'a rien à voir avec le Père. Il n'y a pas de lien entre les deux. Que va dire Paul ? Faux. Complètement faux. Non pas il a quelque chose à voir, mais surtout, il est l'image du Dieu invisible. Ils ont le même ADN, c'est son reflet. Donc ils ont beaucoup de choses à voir ensemble. Deuxième élément, argument. Jésus a été créé, peut-être par Dieu, mais vraiment de manière banale. C'est-à-dire, c'est un élément comme ça qui a été créé. Faux. Complètement faux. Il est le premier-né de toute la création. Et surtout, il est en tout le premier. Paul nous dit là, c'est celui qui est placé au premier rang. Celui qui a la plus haute importance, qui a la primauté sur tout. Il existait avant la création et il est placé au-dessus d'elle. Un verset par rapport à ça, Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Non pas ils ont un lien entre eux deux, mais par le Fils, on peut avoir un lien avec le Père. Donc, quelques mots-clés, comme s'il était avocat. Jésus, c'est le reflet de Dieu, il a le même ADN. Il a la supériorité sur tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, la primauté et la toute-puissance. Autre argument. On peut adorer les anges. Les anges sont des créatures que l'on peut adorer. Objection. J'aurais pas dû mettre en bleu, parce que j'arrive pas à lire. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus est Dieu. Jésus est là depuis le début. Il suffit de lire Jean 1, versets 1 à 2. À la suite de ce verset, il y a une énumération de plusieurs titres. Trône, divinité, autorité, domination. Et ça, en fait, c'est pour montrer que Jésus contrôle tout, à la fois sur terre, mais surtout au ciel. Jésus est Dieu. Donc lorsqu'on dit qu'on peut adorer un ange, non, on adore seulement Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et Colossiens 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Alors, on appelle ça de la rhétorique. Pour un avocat, quelques versets plus loin, donc Paul, Colossiens 2, verset 15, ça c'est de la rhétorique. Chaque mot sont utilisés de manière précise. Et je pense que le mot le plus important, il l'a dépouillé. C'est pas « il a battu » ou « il a battu provisoirement », non. Il les a dépouillés, c'est-à-dire il les a démontés, mis à nu, si on parle comme les jeunes, il les a brisés, d'accord? Et ça, très souvent, le diable, il arrive à nous faire croire, mais non en fait, c'est pas tellement ça. Regarde, je suis encore là. Si, à la croix, il a gagné. Autre argument, Jésus n'est pas si important que ça. C'est vraiment quelqu'un, oui, qui a existé, qui était peut-être particulier, mais aucun caractère divin, et surtout, on ne doit pas l'adorer. Faux. Par lui et pour lui, on lit à la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus est, j'ai mis entre guillemets, adorable. Alors c'est un mot qu'on utilise souvent. « Oh mon chien, il est adorable. Oh, cet élève est adorable. » Je ne dis pas souvent ça. Mais imaginez un petit peu la valeur du terme. Si on dit que quelque chose est adorable, ça veut dire digne d'adoration. Alors moi, j'utilise très souvent ce terme. Maintenant, je vais réfléchir un peu. Parce que c'est un terme qui est extrêmement fort. Et le seul à qui il convient, c'est Jésus. Autre argument. Jésus est un simple maillon de la création. Non, absolument pas. Non pas c'est un simple maillon, mais c'est le maillon qui est purement essentiel. Avant toute chose, et dès le commencement. Vous connaissez tous ce verset dans Apocalypse 22, verset 13. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Retenez ça, j'ai un test pour vous tout à l'heure. Donc il est intemporel. Argument suivant. Jésus, oui, il peut faire partie de l'Église, mais c'est vraiment un membre lambda. C'est-à-dire, ça peut être un doigt, ça peut être un pied, ça peut être un genou. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout important. J'espère que vous êtes d'accord. Faux, complètement faux. Toute chose subsiste en lui. C'est le seul qui peut dire « Je tiens le monde dans mes mains ». Vous connaissez ce chant pour les enfants ? Il tient le monde dans ses mains ? Oui, il tient le monde dans ses mains. Et c'est aussi...
Toute chose subsiste en lui,
c'est dans le verset 17 du texte. Colossiens 1. Toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, verset 17. Et le verset 18, c'est pas un membre lambda, c'est surtout la tête du corps. La tête, ça fait penser un petit peu donc à la métaphore de l'Église et du corps qu'on a dans 1 Corinthiens. Mais surtout, la tête, ça fait penser au cerveau. Donc une question qu'on peut se poser, je la pose à moi en premier, qui est le cerveau de ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est mon métier? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mon appartement? Est-ce que c'est sont mes hobbies? Hobbies, pardon. Belle faute. Qui est le cerveau de ma vie? Vous avez peut-être déjà entendu parler que les êtres humains utilisent leur cerveau à peu près, je crois que c'est 10% de ses capacités. Donc encore une question. Est-ce que nous, on utilise notre cerveau, c'est-à-dire Jésus, seulement à 10%? Est-ce qu'on lui dit, voilà, ok, je t'ai accepté, mais dans tel domaine, en gros, tu dégages, tu n'as pas la première place. C'est moi qui gère. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut vraiment utiliser notre cerveau, utiliser Jésus, j'ai envie de dire à 300% dans notre vie. Surtout que c'est le seul qui a une capacité d'adaptation excellente vis-à-vis de tous nos détails du quotidien. Donc le test arrive. Rappelez-vous l'alpha et l'oméga. J'ai demandé à une personne, Guy au hasard,
diapo.
Tu vas me lire la prochaine diapo. Ok ?
Capacité d'adaptation. Dans un mot, n'a pas d'importance. La seule chose importante, c'est la première et la dernière fois, la menace. Le reste, c'est dans n'importe quel désordre total. Et vous pouvez toujours rien changer.
Rappelez-vous, il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première lettre de notre vie et la dernière. Si on vit ça, théoriquement, on peut le dire, c'est pas compliqué, mais le vivre, pratiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Il pourra s'adapter et nous permettre de tenir bon jour après jour. Bilan, ce petit 1, christocentriquement, christocentrique. Jésus a une filiation avec Dieu et c'est même le reflet entre Jésus et Dieu. Il a la primauté sur tout et un caractère intemporel. Il est supérieur à toute chose, à la fois sur la terre et dans les cieux, et il a la toute-puissance. Il a l'autorité en tant que cerveau, c'est le chef suprême. Et surtout, tous ces éléments montrent et prouvent son caractère divin. Petit 2, plus rapidement. Le Fils par la volonté du Père. Ce qui est intéressant dans cette plaidoirie, c'est que la première partie, Paul va être vraiment le Christ. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Très bien. Et à partir du verset 19, il va dire, ok, il est comme ça, mais c'est pour une chose précise. Et quelqu'un a dit dans sa prière tout à l'heure, je crois que c'était JL, la volonté. Si Jésus a fait tout ce qu'il a pu faire sur terre, c'est parce qu'il a obéi. Mais il a obéi à qui ? À son Père, qui l'a envoyé. Avant-dernier argument de la part des hérétiques. Donc, il y a deux dieux en fait. Il y a un dieu bon, qui est intouchable, sauf si on passe par des expériences mystiques. Donc c'est accéder, enfin c'est possible seulement pour une certaine catégorie de population, dont tout le monde ne peut pas faire partie. Et il y a un dieu mauvais. D'accord ? Le dieu mauvais par contre concerne beaucoup de gens. Voilà la position des hérétiques. Non, il n'y a pas un dieu bon et un dieu mauvais, il y a un seul dieu qui est bon. Et non pas il est bon, mais il arrive à savoir ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Omniscient, omnipotent. Et il a voulu envoyer son fils comme réponse et comme, tu as dit tout à l'heure, dit, nouvelle alliance. Ça c'est fondamental pour Paul, la volonté. Quelqu'un a dit un jour, la volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer. Si vous basez votre volonté dans la vie de tous les jours sur vous, ou si moi je le fais, on est mal barré. Si on base notre volonté sur Dieu, qui est à la fois, rappelez-vous, l'alpha et l'oméga dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas dire que ça va être facile. Je dirais même que ça va être plus compliqué. Par contre, on sait qu'on est entre les bonnes mains. Frère André, vous connaissez sans doute. Il y a quelques années, il faisait une conférence, donc c'est celui qui en gros a créé Portes Ouvertes, donc par rapport aux chrétiens persécutés, qui a voyagé dans des dizaines de pays, qui a rencontré toutes les autorités à la fois terroristes, politiques, vraiment de beaucoup de pays, notamment au Moyen-Orient. Et à la fin d'une conférence, on lui demandait, mais comment vous faites pour ne pas devenir orgueilleux par rapport à tout ce que vous avez fait ? Il leur a dit, Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, il était sur quel animal ? Il a dit, moi je suis l'âne. Je porte Jésus. Et dans notre vie de tous les jours, on doit rester l'âne et porter Jésus. Et c'est lui qui nous dirige. Dernier argument de la part des hérétiques de Colosse. Et juste avant, Jésus est divin par ce qu'il est, ce qu'il fait, et aussi par son obéissance, c'est-à-dire par l'envoi du Père. Dernier argument pour les hérétiques de Colosse. Oui, Dieu a plusieurs attributs, plusieurs pouvoirs. Mais il ne les a pas tous donnés à Jésus. Il les a donnés à certaines personnes d'entre nous. Et c'est pour ça que certaines personnes d'entre nous peuvent avoir accès à ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire la connaissance, ce qui a donné une secte, le gnosticisme, un peu plus tard. Et cette gnose, en fait, elle est accessible seulement si on a un lien avec le deuxième Dieu, c'est-à-dire le Dieu bon. Et pour avoir un lien avec ce Dieu, il faut des expériences mystiques. D'accord ? C'est pas compliqué comme raisonnement. Plus c'est gros, plus c'est bizarre, plus les gens vont le croire. Et la preuve, il y a encore des gens qui croient à ce genre d'expérience. Et là, Paul, il va dire, absolument pas. Dieu fait habiter toute plénitude en lui, c'est-à-dire en Christ. Tous les attributs, toute la perfection de Dieu sont en Christ. Il y a un chant qu'on chante souvent, en Jésus seul. Et l'espérance, tout est en lui. Le thème général de l'épître aux Colossiens, on l'appelle souvent le Christ suffisant. Nous, en tant qu'humains, on aime bien penser à autre chose, mais non, c'est trop. Non, il y a forcément autre chose, moi j'ai envie de montrer qui je suis. Non. Christ a tout accompli, il est suffisant. Deux versets, donc toujours dans Colossiens, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Mayday, mayday. Max. Et Jean 1, versets 14 à 16. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Venu du Père, donc par la volonté du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc comme tout à l'heure, par le moyen notamment des fruits, enfin du fruit de l'esprit, Dieu a tout donné à Jésus. Et lorsqu'on a une relation personnelle développée, endurante avec lui, on peut avoir accès aux fruits de l'esprit. Et pour terminer, pour conclure, le verset 20. Donc je me mets pour la dernière fois dans la peau des hérétiques. Ben en fait, Jésus, il est venu sur Terre, ok, mais il n'avait pas de mission particulière. Il est venu, il a fait du bien autour de lui, on est tous d'accord, mais c'est tout. Faux. Trois mots clés. Sa mission de Jésus sur Terre, c'est le ministère de la réconciliation entre Dieu et les misérables comme nous. Son objectif, instaurer la paix entre Dieu et ses créatures. Un chrétien persécuté qui a dit une fois, la paix que le monde ne peut pas donner, il ne peut pas non plus nous l'enlever. Alors je pense qu'ici on est beaucoup à avoir vécu au moins une fois dans notre vie cette paix que seul Dieu peut nous donner. Et c'est impressionnant, comme j'ai dit tout à l'heure, combien très rapidement le diable arrive à nous faire croire qu'en fait cette paix elle n'est pas de Dieu. D'accord ? En philosophie en terminale, j'ai eu un sujet une fois, c'était douter, virgule, est-ce parvenir à la première certitude ? J'ai toujours pas compris le sujet, je vous rassure. Et par rapport à ça, douter, on a souvent peur du doute. Et oui, ça, on n'aime pas le doute parce que ça nous remet en question. Mais je pense que le doute, c'est quelque chose de très bien pour nous remettre en cause à la lumière de la parole de Dieu. Et enfin, les cinq derniers mots de ces six versets qui sont, je pense, les plus importants de toute la Bible. Le moyen pour réaliser cet objectif, cette mission, c'est le sang de sa croix. Le sang du parfait pour nous racheter en tant que médiateur, en tant qu'intermédiaire. Et comme il dit dans Hébreux, c'est un sacrifice unique et valable pour toujours. Bilan de la plaidoirie de Paul. Donc là, je rentre chez moi, je rédige mon article. D'un point de vue christocentriquement, christocentrique. Jésus est infini, intemporel et éternel. Toute puissance, primauté. La tête du corps de l'Église. Donc autorité incontestable. On est très fort, je pense, chacun d'entre nous, pour contester notre autorité. Notre chef, notre sur-sur-chef, etc. Mais là, c'est incontestable. D'un point de vue centré sur Dieu, christocentriquement parlant, reçoit toute plénitude en lui grâce au Père. Il est tout en tous. Ministère de la réconciliation ordonné par le Père, agneau sans défaut, jusqu'au sacrifice ultime, obéissance sans faille au Père. et il efface les péchés par le sang de sa croix. Conclusion. On sort de la salle d'audience, tous ensemble. Et là, on a entendu plusieurs arguments qui décrivaient Jésus d'une telle manière, d'autres arguments qui le décrivaient d'une autre manière. Qui est Jésus pour toi? Qui est ce Jésus? On peut rajouter plein de choses, notamment, selon nos contemporains, demander un peu autour de vous, c'est qui Jésus pour toi? Il y en a très peu, voire aucun, qui vont dire, il n'a jamais existé. Un philosophe, un idéaliste, un martyr, un illuminé, un personnage historique. C'est les cinq réponses qui reviennent le plus souvent. Selon les contemporains de Jésus, le fils du charpentier, Jean-Baptiste, Élie, ou un prophète. Selon l'Ancien Testament, on parle de plein de choses dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus. Sa naissance, son entrée dans Jérusalem, son sacrifice, sa victoire sur la mort. Il y a plein d'autres exemples. Pour le Nouveau Testament, l'agneau sacrifié pour nos péchés, sauveur et seigneur de toutes choses, et surtout notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Paul est un très bon, voire un brillant avocat, on est tous d'accord. Mais il y en a un seul qui est parfait, c'est Jésus. Et la question, pour résumer, que Dieu posera quand on sera là-haut, quand on arrivera au jugement, il demandera à Jésus, est-ce que tu le connais, lui? Et la réponse de Jésus va déterminer où on passera l'éternité. Selon Jésus, je suis la lumière du monde, le pain de vie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je crois que quasiment 100% des sectes à l'heure actuelle, ils déforment une partie de la Bible et quasiment tout le temps c'est par rapport à Jésus. Témoin de Jéhovah, Jésus est un ange. D'accord? Et en déformant ça, ils rajoutent des choses à côté. Pour dire, ah, quelqu'un a une révélation, rappelez-vous, mysticisme, j'ai une révélation, j'ai écrit un livre à côté. La Bible c'est important pour attirer les gens, par contre après, on applique seulement le livre. Et surtout, ne lisez pas la Bible, ou alors certains passages, que nous, on va vous demander de lire. Ok? Le jour où on vous dit ça dans une église, vous sortez en courant. Hein. D'accord? Et la réponse la plus concrète, c'est Jésus qui l'a donné, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc qui est-il pour toi, ce Jésus? Ne pense pas à tes parents, à ta famille, mais qui est-il pour toi, individuellement? Je vous propose quelques secondes de silence, de recueillement, et je me pose la question aussi, parce qu'on a toujours besoin de se remettre en cause, d'avancer, et pour avancer, il faut se poser des questions. Donc quelques minutes, juste de silence, pour réfléchir à cette question. Pour terminer, je vais vous lire trois versets dans Hébreux. Hébreux chapitre 1, versets 2 à 4. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Je propose de prier. Quelqu'un a dit un jour, par rapport au salut, Dieu était trop riche pour nous l'offrir et nous trop pauvres pour l'acheter. Merci Seigneur pour ce médiateur que tu as envoyé, le Christ, Merci parce qu'il était ton reflet, ton image, ton empreinte. Merci parce qu'il était suffisant. Et à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Merci parce qu'il veut vivre en nous aujourd'hui. Merci pour la paix qu'il peut nous apporter. Et à nous vraiment à rester à côté de lui sur le chemin étroit, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et à nous avoir les bons réflexes, lire ta parole, prier, passer du temps ensemble, et vouloir avancer sans cesse avec toi, ne jamais nous contenter de l'état dans lequel nous sommes, Seigneur. Merci pour ta patience envers nous, pour ton amour indéfinissable. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, malgré ce que nous sommes. Je remets tout ça dans ton puissant Saint-Nom. Amen.